les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2004, dans l'introduction de la biographie qu'elle consacrait à Anne-Marie Schwarzenbach, Dominique Lormiremont soulignait le mystère émanant des portraits photographiques de la jeune femme née en 1908 à Zurich et morte en 1942 à 34 ans. Après l'avoir brièvement rencontrée en juin 1933, la poétesse et femme de lettres Catherine Pozzi écrivait ainsi à son propos « Que de grâce dans ce visage sérieux. Mais elle a un regard inquiet, comme sollicité par d'invisibles peines. On a auprès d'elle un sentiment d'instabilité curieux. » En 2018, pour l'émission Une vie, une œuvre, Vinciane Moschler et Ghislaine David racontaient le parcours de cette femme que Thomas Mann, le père de ses deux grands amis, Erika et Klaus Mann, avait surnommé l'ange dévasté. Journaliste, photographe, écrivain, issue d'une famille de riches industriels zurichois avec lesquels elle fut en rupture radicale, Anne-Marie Schwarzenbach a fui ce milieu pour photographier et raconter le monde, de la Russie à la Perse, des États-Unis au Proche-Orient. Un parcours marqué par des passions amicales et amoureuses, par la dépendance à la morphine et le combat incessant contre le nazisme. Une vie, une œuvre, Anne-Marie Schwarzenbach, l'ange inconsolable, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 avril 2018.
Dès l'enfance, Anne-Marie a été habituée à poser sous les ordres de sa mère. C'est ça qu'on voit dans ses photographies, en fait. C'est-à-dire qu'elle a cette conscience d'être photographiée. C'est une photo qui est vraiment incroyable, parce qu'on se demande tout de suite quelle est cette personne. Et c'est un visage qui appelle la fiction. Sa mère était une grande photographe. Elle photographiait principalement ses enfants, ses chevaux. C'était aussi d'ailleurs la première femme à avoir une caméra 16 en Suisse, en 1910. Quand elle rentrait dans un lieu public, les visages se tournaient vers elle pour la regarder, parce qu'elle était vraiment fascinante.
Anne-Marie Schwarzenbach, l'ange inconsolable. Une émission de Vinciane Moschler et Ghislaine David.
Mais ce qui est drôle, parce que vous me faites faire cet exercice-là avec toutes ces photographies, et j'ai fait la même chose avec mes actrices dans le film. Je les faisais les regarder pour s'imprégner.
Véronique Aubouy.
Donc ce film raconte un casting dans lequel viennent se présenter des jeunes gens et des jeunes femmes pour interpréter le rôle. Et l'idée est de reconstituer un portrait d'Anne-Marie Schwarzenbach à travers des personnalités différentes, et surtout parce que chaque personnalité, chaque acteur ou actrice prend en charge une des facettes d'Anne-Marie, donc qui la drogue, qui l'écriture, qui le voyage, qui la mère, très importante, qui la Suisse. Et ce qui m'intéresse, c'est à quel point un livre ou une personnalité comme ça, comme Anne-Marie Schwarzenbach, nous éclaire sur qui nous sommes et ce que nous vivons. Donc l'idée, c'était que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, entre 19 ans et 25 ans, s'expriment à travers cette identification à Anne-Marie. Cette vie courte me fascinait complètement. Une vie vraiment intense, pleine d'énergie et en même temps où la mort était omniprésente. Cette personne qui était à la fois une grande bourgeoise, très riche, et en même temps qui était antifasciste, voilà, qui était une amoureuse dans une quête d'absolu incroyable, qui était une amie aussi, l'amitié. Il y avait vraiment beaucoup de thématiques que je pouvais proposer à ces jeunes gens pour qu'ils répondent sur eux-mêmes, pour qu'ils parlent d'eux-mêmes. C'est comme si c'était une grande sœur, un peu. Quelqu'un dont ils se sentaient soudainement très proche.
« faut dire, bon, d'abord que Anne-Marie a passé son enfance et sa jeunesse dans une somptueuse propriété au-dessus du lac de Zurich. Une somptueuse propriété qui dominait donc le lac, avec un vaste domaine qui comportait une ferme modèle, des écuries, un manège, enfin beaucoup de choses qui étaient à la pointe de la technique de l'époque.
Dominique Grant.
Elle était le troisième enfant d'une fratrie de cinq. Et elle a été un cas particulier parce que, sous prétexte qu'elle était fragile et qu'elle avait eu une rougeole suivie d'une scarlatine, elle n'a pas été scolarisée avant l'âge de 15 ans, ce qui est quand même assez surprenant, et qui en dit long sur d'abord son isolement, loin des enfants de son âge, et puis de l'emprise de sa famille. La mère, Renée Schwarzenbach, qui l'aimait beaucoup, enfin il y avait beaucoup d'amour réciproque, mais en même temps il y avait une autorité et une pression sur ce que devait devenir Anne-Marie, qui ne correspondait pas du tout à ses aspirations. Et les conflits, des conflits assez terribles, sont nés de cette situation.
Alors c'est une famille qui est industrielle, c'est une famille qui a une
Daniel Gérardin.
Une ascendance importante du point de vue de la mère d'Anne-Marie Schwarzenbach, parce que elle est petite-fille de Bismarck et elle est fille du général Villet. Le général Villet est un général qui était pro-prussien pendant la guerre et qui a fait l'objet d'une controverse très forte en Suisse en raison de son attachement à la Prusse. Et il se trouve que la famille Schwarzenbach était aussi pro-nazie. La mère d'Anne-Marie était ouvertement nazie. Elle a vécu elle-même à l'intérieur de la propriété avec une cantatrice de Bayreuth qui était allemande. Alors la famille Schwarzenbach, elle était évidemment très influente en Suisse. Elle l'a été d'ailleurs jusque dans les années 70. Et ça a une grande influence dans la vie d'Anne-Marie Schwarzenbach. Parce que Anne-Marie Schwarzenbach, elle est dissidente par rapport à cette famille, mais en même temps, elle a un lien avec la mère et avec le père également, qui est très très fort.
Renée Schwarzenbach aimait beaucoup la musique, elle a même créé un festival à Zurich, elle est tombée amoureuse d'une chanteuse d'opéra qui s'appelait Amy Krüger, et elle recevait dans son domaine de Bocken des musiciens extrêmement célèbres à l'époque, comme le chef d'orchestre Bruno Walter, Furtwängler, Honegger, le compositeur Arthur Honegger. Et Renée Schwarzenbach a une relation avec une femme au nez et à la barbe de son mari. Enfin, c'était une chose qui était... C'était un ménage à trois. Alfred Schwarzenbach était tout à fait au courant. Il recevait à sa table Amy Krüger et il savait très bien quel sentiment attachait sa femme à cette chanteuse lyrique. Alors Anne-Marie Schwarzenbach a vécu cela, enfin ça s'est produit sous ses yeux et elle n'a même pas compris vraiment pourquoi sa mère ne voulait pas trop qu'elle fréquente des femmes, enfin qu'elle se rapprochait trop d'amis à elle qui venaient prendre le thé.
Autrefois, quand j'étais encore toute petite, des femmes très belles venaient en visite à la maison. Elles conversaient avec maman et buvaient du thé dans des tasses bleues. Quand je venais leur dire bonjour, elles m'attiraient contre elles et me caressaient. Leurs mains blanches sentaient bon. Un parfum doux et délicat qui persistait encore quelque temps dans ma chambre d'enfant. Plus tard, il n'y avait qu'une femme que je trouvais belle. Cette femme me caressait aussi, m'attirait contre elle et me regardait dans les yeux. Et comme j'étais plus grande, j'avais le droit de rester. Et je restais près d'elle, qui me tenait parfois la main tout en bavardant avec d'autres visiteurs. Mais elle se tournait toujours vers moi, me parlait et souriait tout en caressant mes cheveux. Je rougissais et je regardais maman qui m'appelait et m'envoyait faire quelque chose en dehors de la pièce. Je trouvais que c'était injuste. Et je pleurais en cachette. Chaque fois que je rencontrais de belles femmes, c'était le début de l'injustice et des interdits.
On la voit là,
celle-ci.
Portrait, ouais.
Mm-hmm. Elle a vraiment l'air d'un garçon. Et c'est vrai que, comme elle s'habillait en homme, et qu'elle faisait des grands voyages partout dans le monde, Ben souvent, on la prenait pour un homme, ce qui l'arrangeait en fait. C'est quand même une personne vraiment qui a une présence étonnante. Et là, c'est vraiment très, très, très incroyable, cette élégance absolue de la cravate, les tissus du costume, le petit mouchoir là.
Oui, hein, les petits détails.
Ouais. Ses mains qui sont vraiment très belles, très longues, très fines et qui ne sont jamais posées par hasard. Voilà, là, on a toujours cette sensation que les mains occupent la photographie au même titre que le visage, pratiquement.
Là, on la voit avec les enfants en manne.
Alors là, évidemment, voilà, les deux autres sont en train de rire et de regarder ailleurs. Quelqu'un qui est en train de leur parler apparemment, et elle regarde l'objectif de la caméra.
C'est le 14 septembre 1930 que le NSDAP devient le deuxième parti au Reichstag, après le Parti Socialiste. C'est un choc absolu, puisque ce parti, donc le parti nazi, passe de 12 sièges à 107 sièges au Reichstag. Et ça, c'est un choc qui fait que Klaus Mann devient, à partir de ce jour-là, un écrivain engagé.
We German refugees, the first victims and most inexorable enemies of Nazism, were eager to contribute our bit to the fight.
Ce qui est important dans la famille Mann, c'est de voir quand même que ce sont les enfants aînés, Erika et Klaus Mann, qui n'ont qu'un an de différence. Enfin, ils sont nés respectivement en 1905 et 1906, Anne-Marie est née en 1908. Ce sont les aînés qui, tout de suite, se disent il faut faire quelque chose. Ils manifestent, en particulier Klaus, une intransigeance face aux valeurs à défendre. Et ces valeurs sont évidemment des valeurs de justice, de paix, de liberté, de tolérance. Et Anne-Marie se sent tout à fait au diapason de ces valeurs-là. Alors évidemment, sa situation est très différente de celle de ses amis, parce qu'ils deviennent très tôt amis. Anne-Marie est même amoureuse de Erika Mann, mais Erika Mann est prise par Thérèse Giese, une actrice avec laquelle elle se produit souvent. Et avec Klaus, elle a beaucoup d'affinités. Surtout, ils sont tous les deux vraiment des êtres qui, comme a dit Cocteau à propos de Klaus, des êtres qui habitent mal sur cette terre.
Lettre à Klaus Mann, Berlin 1933. Aucun doute que l'Allemagne est en train de s'isoler, de se faire honnir à l'extérieur et à l'intérieur, de semer les germes d'une haine immense pour plusieurs générations. Inutile de continuer, c'est un refrain que tu entends sûrement beaucoup, et même trop. D'ailleurs, je pense, ça n'apporte strictement rien d'en discuter. Car pour peu qu'on accorde quelques valeurs aux choses de l'esprit, et si en plus on est européen, on est automatiquement dans l'opposition. Mais ce que je me demande, et de façon chaque jour plus obsédante, c'est si les gens perçoivent clairement le sens de ce qui se passe. S'ils se rendent compte qu'il ne s'agit pas ici simplement du triomphe provisoire d'un courant détestable, mais qu'on a là un peuple tout entier, tout de même immensément doué, et qu'on ne peut pas rayer comme ça de l'histoire européenne, en train de s'engager sur cette voie pour des années, emporté par un mouvement de fond indéniablement puissant.
Son père lui écrit un jour en disant « Il faut que tu ailles en Allemagne participer à ce formidable mouvement de révolution nationale ». Alors que Anne-Marie Schwarzenbach, elle est à Berlin avec des intellectuels ou des artistes qui sont opposés au nazisme et qui vont être les premiers à en subir les conséquences dès l'avènement de Hitler en 1933.
Et une grande qualité qu'avaient ces enfants, je dirais, cette jeune génération, c'est qu'ils détectaient d'emblée les mécanismes pernicieux des idéologies auxquelles l'Europe s'est inféodée pendant les 40 premières années du XXe siècle. Ils ont été littéralement malades de ces idéologies. Alors Klaus Mann s'est engagé très fortement. En mars 1933, il s'est exilé, il a quitté l'Allemagne définitivement. Et sous l'impulsion d'Anne-Marie Schwarzenbach, il a créé une revue antifasciste qui aurait permis donc à tous les exilés, à tous ces intellectuels qui ont dû quitter l'Allemagne très brutalement, de s'exprimer. Cette revue s'est appelée la Sammlung, c'est-à-dire le rassemblement, et elle a été publiée pendant 2 ans. Et Anne-Marie a, disons, donné sa contribution en finançant en partie cette revue. Et puis il y a une autre chose, alors qui marque l'engagement des Mann, c'est du côté d'Erika la création d'un cabaret antifasciste qui s'appelait la Pfeffermühle, c'est-à-dire le moulin à poivre, pour lequel Klaus a écrit des petits sketchs, et c'était vraiment un cabaret politique.
Die Pfeffermühle. Recht guten Abend, was wünscht Ihnen allen die Pfeffermühle? Sie hat der Ziele unendlich viele. Ihnen gefallen, das möchte vor allem die Pfeffermühle. Die Pfeffermühle.
C'était plus qu'un ami, c'était une âme sœur, Klaus Mann. Tous les deux, ils ont partagé, malheureusement, la drogue, qu'ils ont commencé quasiment à prendre à la même époque, ensemble. Mais ils ont partagé aussi une forme de manière, comme ça, d'aimer, d'impossibilité d'aimer. Chacun avec des partenaires avec lesquels ils vivaient des histoires malheureuses. Et ils ont partagé aussi l'écriture. Hein. L'écriture comme une drogue, c'est-à-dire que l'un comme l'autre écrivait tout le temps. Anne-Marie, elle disait « Je ne vis que lorsque j'écris ».
Klaus a fait des recensions des livres qu'Anne-Marie publiait, en tout cas au début évidemment, et c'était des recensions très louangeuses. Erika était beaucoup plus, elle était même assez méprisante vis-à-vis d'Anne-Marie. Elle considérait que c'était une petite fille de riche et qu'elle n'avait pas grand-chose à dire, quoi. À vrai dire, l'histoire, enfin la suite, l'avenir, enfin la suite a prouvé que elle se trompait vraiment radicalement.
Alors c'est vrai qu'on perçoit toujours cette jeune fille pour son étrangeté, pour sa singularité, mais aussi bien sûr pour les promesses financières qu'elle transporte.
Anne-Bissang.
Il y a du côté de Klaus et Erika Mann qui ont pourtant beaucoup d'affection pour elle, un peu de condescendance pour cette petite Suissesse, cette petite fille riche qui pleure beaucoup, c'est vrai, elle ne tourne pas le dos à sa vulnérabilité, à sa souffrance, elle en fait quelque chose plutôt. Je pense qu'elle cherche l'âme sœur, elle cherche l'autre, elle cherche l'affection, elle cherche l'amour, elle cherche le désir aussi. Alors on sait bien que l'homosexualité était bien sûr interdite, mais il y a eu entre les deux guerres une période, on va dire, de permissivité, d'ouverture, de liberté, que ce soit à Berlin qu'elle fréquente aussi, dont elle fréquente bien sûr les cafés. Elle écrit d'ailleurs une très belle nouvelle lyrique, où elle raconte au fond ce Berlin du désir possible. Mais en même temps, la société n'est pas encore prête à accepter vraiment l'homosexualité affichée, donc elle est dans un double discours permanent. Mais elle écrit, jeune femme, à 21 ans, un livre qui s'appelle « Voir une femme », qui ne sera publié que très 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 tardivement, où elle raconte une histoire, une histoire d'amour, où elle est elle-même protagoniste, et où elle rencontre une femme dans un hôtel, grand hôtel à Saint-Moritz. Donc au fond, c'est une pionnière en la matière. Il y a peu de livres de cette époque qui parlent, qui évoquent aussi clairement et frontalement l'homosexualité.
Nicole Lebris.
Voir une femme décrit ce qui se passe dans le choc de deux regards de femmes qui se rencontrent dans le cadre d'un grand hôtel, d'une station de ski identifiable comme Saint-Moritz. Puis ce qui se passe après ce choc de regard, et elle analyse de façon assez proustienne, très proustienne, on sait qu'elle lisait Proust, les sentiments d'attente, de doute, de fièvre qui peuvent envahir un être dans ce choc de regard tout de suite amoureux. Mais elle écrit aussi quand elle est à Paris, elle passe une année à Paris, trois nouvelles parisiennes qui restent inédites à ce moment-là, et Les Amis de Bernard est sa première publication. Il y a quelque chose de très moderniste dans ce roman. On passe librement d'une séquence à Paris où Bernard joue un rôle, le rôle de premier plan, et une autre séquence à Berlin, puis une autre séquence en Allemagne. Très librement de cette manière. En 31, elle écrit une nouvelle lyrique, qui est en fait une lettre écrite par un narrateur, où il montre l'état de dépendance affective qu'elle a réduit son amour pour une certaine Sibylle. En fait, c'est une expérience d'Anne-Marie elle-même hein, qui est transposée dans cette histoire. Alors, c'est un texte tout à fait réussi, mais qui, lui, n'a pas eu de succès parce qu'il est paru, l'éditeur n'a pu le faire paraître qu'en 33. En 33, l'actualité politique est extrêmement lourde. Et même l'ami d'Anne-Marie, Klaus Mann, qui trouve de grandes qualités d'écriture au texte, ce qui est exact, il trouve que l'histoire est un peu gênante par rapport à la réalité, face à la réalité sociale, dit-il. Et elle fait raconter cette dépendance par un héros masculin. C'est pas la seule fois. Quand elle écrira La Vallée heureuse, le héros est à nouveau masculin. Dans Le miracle de l'arbre, c'est aussi un narrateur qu'elle fait parler. On a été tenté quelquefois de penser qu'Anne-Marie se choisissait, comment dire, un double masculin par peur de s'exposer. Je crois que c'est pas du tout dans son tempérament. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux qui n'a jamais essayé de cacher quoi que ce soit. Je crois que c'est plutôt autre chose et qu'à travers ce procédé qui consiste à prêter ses tourments, ses souffrances, ses expériences à un narrateur masculin, elle tente plutôt une espèce d'expérience littéraire.
Je me souviens de tous les avertissements que l'on m'a donnés, de tous les conseils. Mais vous avez utilisé une langue que je ne comprenais plus. On s'est plaint de ma désertion, de ma soif, de voyage, de mes errances. Mais on a oublié de me dire qui serait juge. Et je m'en vais. Libération. Libération. Seule liberté qui nous est restée. Je n'ai pas laissé mon nom. Je ne sais pas où je passerai la prochaine nuit. Vos avertissements, vos feuilles d'impôt ne m'arriveront pas. Gardez pour vous vos conseils, je ne pourrai les suivre.
Anne-Marie écrit « Quand je pense à l'Europe, je ne trouve rien qui puisse m'y retenir ou qui m'apparaisse un tant soit peu supportable. » Et elle explique justement pourquoi elle va en Orient, sur les fouilles de Ragès, près de Téhéran. Elle dit « À Ragesh, je serai essentiellement occupée à mesurer des crânes et je pourrai ainsi prouver l'absurdité de ces idiots de racistes allemands sur des spécimens iraniens. C'est la seule chose qui me semble attrayante. » Sa façon à elle de lutter contre la barbarie nazie, c'est de partir. Je pense qu'il faut vraiment du courage quand on est une jeune femme de 22 ans pour quitter les siens et se lancer dans un monde inconnu.
Alors je pense que pour Anne-Marie Schwarzenbach, l'Orient, c'est la terre de l'absolu, c'est le retour aux sources aussi de la civilisation et de la culture. C'est un monde intact, sans doute. Il y a une recherche de pureté, il y a une recherche d'un ailleurs qui est porteur de vertige parfois, mais aussi de sensations et de sensualité aussi, je pense. C'est très important, hein. Elle quitte une société protestante, carapassonnée, et l'Orient, c'est toutes les couleurs, c'est tous les parfums. Elle en parle d'ailleurs dans ses livres de cet Orient chatoyant, de cet Orient mystérieux aussi. Parfois dangereux aussi, hein, c'est vrai, mais qui est cet ailleurs qui la reconnecte au vivant.
Nous ignorons tous de quoi nous vivons. Alors comment pourrions-nous rater quelque chose et en avoir des regrets? Il était déjà tard le soir quand, arrivant à Istanbul, je franchis épuisé l'arche antique de la porte de la ville. Le pavé résonnait, les petites lampes à huile illuminaient la ruelle du bazar, et je parvins enfin aux eaux miroitantes du Bosphore, dont le flot ininterrompu s'écoulait dans le silence de la nuit. J'aurais pu alors souffler un peu et croire un instant que j'avais atteint un but et amplement mérité ces retrouvailles aux accents si variés. Mais j'aurais été vite assailli de terribles doutes, me demandant si c'était là le bon endroit, l'aboutissement. J'aurais vu en rêve les dômes d'autres villes, et au réveil j'aurais cherché leurs noms sur les cartes et les poteaux indicateurs. Le voyage n'exige pas que nous prenions des décisions et il ne place pas notre conscience devant un choix qui nous rend coupables et repentants, humbles ou obstinés, jusqu'à ce que nous doutions de toute justice et pensions que cette vie n'est pour nous qu'un dédale, une épreuve fatale. Partir, c'est la délivrance. Ô unique liberté qui nous soit restée. Et il n'est besoin pour cela que d'un courage sans faille, chaque jour renouvelé.
Elle va rencontrer ce jeune diplomate français au cours d'un voyage. Il se trouve que lui-même est homosexuel et qu'au fond, par commodité, l'un et l'autre pensent que c'est une bonne opportunité de se marier, d'être un couple. Elle obtient du coup le passeport français, un passeport diplomatique. Donc tout ça va faciliter aussi ses allées et venues au fond dans de nombreux pays où elle va être reçue souvent dans les ambassades, dans les légations. C'est un mariage, on pourrait dire, de couverture, mais pas que.
C'est sûr qu'ils ont été très très proches, très très proches. Voilà, des années après, enfin, jusqu'à sa mort, Claude Clarac a aimé Anne-Marie Schwarzenbach. Et ils se sont retrouvés peu avant la mort d'Anne-Marie. Ils se sont retrouvés au sens vraiment d'une grande affection mutuelle, de quelque chose qui les rapprochait de plus qu'avec d'autres personnes. Mais Anne-Marie, quand même, n'a jamais dit la vérité à Claude Clarac, ni sur sa... Enfin, surtout, principalement sur la question de la drogue, elle ne lui a pas dit.
Sa première prise de morphine, c'est en octobre 1932, avec des amis, dont Lehmann. Et c'est très tout à fait dramatique parce que contrairement à Eric Hamann, par exemple, qui supportait très bien et qui savait s'arrêter, Anne-Marie, elle, Klaus également, mais surtout Anne-Marie, est tombée dans une addiction terrible et elle a dû faire tout au long de sa vie, en particulier en 1938, elle a fait 4 ou 5 cures de désintoxication.
Elle a vécu à Berlin, elle a vécu à Paris, elle a voyagé dans le monde entier. Si on regarde les voyages qu'elle a fait en si peu de temps, c'est absolument incroyable. Entre le Proche-Orient, entre la Russie, où elle était à Moscou en 34 au Congrès. Elle voyage sans arrêt. Et c'est une femme qui écrit extrêmement bien, qui écrit des articles dans les reportages. Et dans les années 30, on a l'avènement de la presse illustrée, notamment en Suisse, la Zürcher Illustrierte, la Schweizer Illustrierte, la Neue Zürcher Zeitung ou la Weltforeit. Et ce sont des journaux illustrés qui commandent des articles, mais qui commandent aussi des photographies. Alors, elle va en Espagne pour écrire les textes. Marianne Breslauer est engagée pour faire les photographies, mais la plupart des reporters, des journalistes de cette époque, notamment Anne-Marie Schwarzenbach, commencent à photographier par eux-mêmes de manière à pouvoir illustrer les journaux. Elle a commencé à photographier avec un Rolleiflex en 1933 avec Marianne Breslauer. Et lorsqu'elles sont revenues d'Espagne, eh bien les photographies de Marianne Breslauer ne pouvaient plus être publiées en Allemagne parce que Marianne Breslauer était juive. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça de femmes qui sont devenues photographes de manière à pouvoir illustrer des articles qu'elles écrivaient. Les premières photographies vraiment intéressantes, à mon sens, sont les photographies qu'elle a réalisées à Moscou en 1934. Donc, à Moscou, elle est invitée au congrès des écrivains, le fameux grand congrès des écrivains, à l'occasion duquel elle rencontre Gorky, Malraux, et elle se rend jusqu'en Ossétie. Là, il y a un certain nombre de photographies qui montrent vraiment qu'elle avait un talent de photographe.
1939, c'est donc le quatrième grand voyage, l'Afghanistan. Ella fait équipe avec Anne-Marie Schwarzenbach. Cette jeune femme, hypersensible, douée pour l'écriture, essaie alors d'échapper à la drogue. Ella pense qu'elle pourra la sauver. L'échec et la désillusion seront cruels. Les deux femmes vivent ensemble l'Afghanistan, passant dans ce voyage passionné de la souffrance à l'exaltation.
Donc là, dans cette photographie, ce qui est très beau, c'est la position d'Anne-Marie Schwarzenbach, son pantalon en flanelle, comme ça, cette façon qu'elle a de tenir sa jambe. Et la Maillard, debout dans la voiture, alors c'est une voiture décapotable, hein, c'est une Ford, je crois, verte, il me semble, que le père d'Anne-Marie Schwarzenbach lui avait offerte. Et c'est vrai que la voiture, la vitesse, c'est un élément très important dans la vie d'Anne-Marie, elle part sur les routes, sur les pistes, que Anne-Marie étant habillée en homme, avec son pantalon de flanelle grise, et la Maillard avec ses jupes, voilà, c'est un couple, hein, aux yeux de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose de fascinant, ce rapport aux voitures aussi, parce que Anne-Marie Schwarzenbach était tout à fait capable de réparer n'importe quelle panne de sa voiture.
Au coucher du soleil, on était en plein bled, et on a dormi à 200 mètres au bord de la route, à même le sol. On n'a pas dressé des tentes. Eh bien, il y a eu une tempête pendant la nuit. Et on avait juste nos sacs de couchage. Je me suis senti donc à même le sol et roulé par un grand vent de steppe asiatique, où pour la première fois, j'ai eu ce sentiment formidable, où j'ai senti ce contact avec la terre.
Elle avait déjà fait pas mal de voyages, elle a fait 4 voyages, je crois, dans cette région, donc c'était pas le premier. Alors bien sûr, elle avait déjà quelques rudiments de langue. Pas oublier que c'est une intellectuelle qui connaît bien l'histoire, et donc qui s'est beaucoup documentée avant de partir. C'est ça qui est remarquable et étonnant, c'est que et l'une et l'autre racontent à quel point c'est simple. Un voyage en 1939, de Genève jusqu'à Kaboul, à quel point, au fond, elles ne se sentent jamais en danger, pour ainsi dire. On est à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre n'est pas encore déclarée, mais en même temps, voilà, les factions... enfin, on sent que la guerre gronde, donc elles sont arrêtées par-ci, par-là, par des barrages. Mais, en réalité, la société très masculine qu'elle rencontre, bien sûr, est plutôt une société protectrice à leur égard. Donc, elle n'évoque jamais de peur, mais plutôt une bienveillance et même une curiosité.
N'empêche que c'était un voyage dangereux. Et lorsqu'on entreprend un voyage comme celui-ci, il faut pouvoir compter à 100% sur là où les personnes qui voyagent avec vous. Alors, la Maillard, elle avait cette expérience avec Peter Fleming, Son immense voyage qui l'a fait traverser la Chine jusqu'en Inde. Et la Maillard, lorsqu'elle s'est rendue en Afghanistan, elle n'a pas été avec une aventurière, si on veut, et elle n'a pas été avec quelqu'un qui avait les épaules très très solides pour les épreuves. Les épreuves, ça peut être la fatigue, la faim, le vent, le désert, ou les zones à éviter, et les discussions à avoir. Donc c'est quelqu'un qui effectivement, demandait beaucoup, et à un moment donné, la Maillard n'a plus pu faire face à la situation.
Anne-Marie Schwarzenbach a souvent, avec les femmes qu'elle a rencontrées, une relation un peu de fille à mère. Dans le cas d'Ella Maillard, c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire qu'Ella Maillard fait sa connaissance alors qu'Anne-Marie Schwarzenbach est en cure de désintoxication, en énième, en 1938, qui était l'année la pire pour elle. Elle a été hospitalisée je ne sais combien de fois dans l'année. Et donc Ella Maillard se donne pour mission... lors du voyage qu'elles entreprennent en voiture pour aller vers l'Afghanistan, et de fait jusqu'en Afghanistan, elle se donne pour mission d'aider Anne-Marie à se sortir de la drogue. Et très vite, il s'avère que pendant le voyage, Anne-Marie dissimule, fait tout pour, dès qu'elle arrive dans une ville, pour trouver sa drogue. Et donc, évidemment, le rapport maternel avec Ella Maillard devient encore plus fort. C'est-à-dire que voilà, elle se fait gronder.
Alors pour moi, ces deux femmes, elles se rencontrent au fond sur un point commun, c'est leur incapacité à être solubles dans la société suisse de l'époque. Elles sont toutes deux des anticonformistes, des marginales, des femmes qui se sentent au fond dans une sorte de prison en Suisse. Donc elles ont toutes les deux des raisons de s'échapper pour, au fond, sauvegarder leur liberté. Toutes les deux, au fond, fuient un destin de tout simplement de femmes mariées. Son milieu l'accepte, l'aime d'une certaine façon telle qu'elle est, mais en même temps, à la condition qu'elle ne se fasse pas remarquer. Hein. Elle ne doit pas prendre la parole, ce qu'elle va faire, ce qu'elle fait en tant qu'auteur, ce qu'elle fait en tant que reporter et journaliste.
Cette manière qu'elle avait d'écrire, en prise avec le direct, elle réagit à chaud. Et donc, beaucoup sur des destins de femmes, c'est ça qui me touche énormément aussi, c'est qu'elle s'intéresse vraiment à la façon dont les femmes vivent dans le monde entier, enfin dans le monde, dans les mondes qu'elle a traversés, tout de suite elle regarde les femmes, elle a cette chose de cette acuité d'observation qui est incroyable et qu'elle met tout de suite sur du papier, tout de suite. Il y a plein de photographies dans lesquelles elle est en train d'écrire accroupie sur une pierre en train de consigner et je trouve que c'est une force incroyable.
Je ne suis pas surprise de voir maintenant surgir un cavalier, ses cheveux noirs flottant sous son turban blanc. Et je ne suis pas effrayée quand aussitôt, après, quelques chiens de berger jaunes se précipitent vers moi. Mais les voilà qui s'arrêtent. Une voix de femme les rappelle. Oui, pour la première fois depuis longtemps, j'entends la voix d'une femme, impérieuse et gaie. Et puis des rires. Et bia, bia, viens, approche. Elle est debout sur le rebord du mur, jeune, inondée de lumière. Elle porte des boucles d'oreilles étincelantes et une jupe ample. Elle n'est pas volée et me fait signe en riant. En contrebas, derrière le mur, comme regroupée autour de ses genoux, d'autres femmes, jeunes et vieilles, et une foule d'enfants. Les garçons portant un bonnet brodé, les filles des nattes bien tressées. Ils poussent des cris de joie et répètent « bia », comme s'ils voulaient faire la fête. Et se moquer de moi. Je suis là presque gênée et je regarde les chiens qui, à quelques mètres de moi, à plat ventre, continuent de me montrer les crocs. Mais le cavalier arrive. Il glisse à bas de son cheval qui entre tout seul dans la cour et les chiens reculent en grognant. Le jeune homme vêtu d'un manteau à fleurs m'invite à le suivre. La jeune fille est toujours sur le mur, son visage rayonnant penché comme une promesse. Et avant même de m'en rendre compte, je suis l'hôte du village.
Mais le voyage s'est relativement bien passé jusqu'à Kaboul. Et là, les choses sont dégradées parce que, d'une part, Anne-Marie Schwarzenbach a vraiment rechuté alors, d'une manière profonde, la drogue, mais elle a aussi créé un scandale, Anne-Marie Schwarzenbach, parce qu'elle est tombée amoureuse de la femme de Riak, hein, la femme de l'archéologue français qui était en charge des fouilles en Afghanistan. Les petits scandales comme ça ont très mal passé, Anne-Marie Schwarzenbach était très mal, et Ella Maillard a décidé de continuer seule le voyage en Inde, et Anne-Marie Schwarzenbach est restée à Kaboul. Ensuite, elle est descendue en Inde, juste dans le sud de l'Inde, avec sa voiture. Elle a vu Ella Maillard une dernière fois, et puis elle a pris le bateau de Bombay jusqu'en Europe pour rejoindre la Suisse.
Ce que je trouve beau dans ce livre, La Voix cruelle, c'est cette volonté de cette jeune femme, Ella Maillard, hein, qui a 37 ans, je crois, au moment du voyage, de se dire est-ce qu'on peut sauver quelqu'un? Est-ce qu'on peut sauver quelqu'un de ces démons? Anne-Marie Schwarzenbach, on était à leur première rencontre, à, je crois, sa 5e ou 6e tentative de suicide. Et je pense qu'il y a chez la Maillard cette, elle le dit, hein, plus tard dans le livre, une sorte de prétention. C'est aussi une façon pour elle de donner un sens à ce voyage, outre la redécouverte de contrées qu'elle a déjà connues. Et c'est très beau, très sincère et très fort, je trouve, les paroles de la Maillard à la fin du livre. Elle dit, mais au fond, voilà, j'avais cette présomption. Et puis, je suis peut-être passée à côté de quelqu'un en ne comprenant pas aussi le sens de la souffrance pour Anne-Marie Schwarzenbach. Et c'est très beau, je trouve, cet aveu d'échec qu'elle fait à la fin. Et au fond, comme si, au fond, elle avait aussi manqué un rendez-vous avec Anne-Marie Schwarzenbach.
En 1936, elle est invitée par Barbara Hamilton Wright, qu'elle a connue en 1935 à Téhéran. Elle se rend dans le nord des États-Unis. Alors, l'Amérique, c'est l'Amérique de la dépression. Après le crash de 29, l'Amérique des années 30 est une Amérique pauvre. Et pour montrer cette Amérique pauvre à tous les Américains, le gouvernement américain a engagé des photographes, il a engagé des écrivains aussi, pour donner la réalité du pays. Et c'est à ce moment que Anne-Marie Schwarzenbach fait un tour à Pittsburgh et qu'elle est confrontée à cette réalité. Et elle est d'autant plus confrontée à cette réalité que son frère dirige des usines aux États-Unis, parce que la famille Schwarzenbach a des usines à peu près dans le monde entier, et que elle se rend compte aussi que dans les usines de sa propre famille, eh bien, les gens travaillent pour peu d'argent dans des conditions terribles. Elle a photographié les paysans pauvres sur les routes qui vont de terrain agricole en terrain agricole. Elle a photographié le prolétariat américain au chômage, des usines dévastées, des endroits terribles. Mais quand elle était dans le Sud, elle a non seulement compris et vu le prolétariat américain blanc dans sa misère et sa pauvreté, mais aussi dans son racisme. Elle a écrit des textes qui sont vraiment parmi les meilleurs textes que j'ai lus sur la question du racisme ou de la misère.
Elle prend des risques. Par exemple, elle a soutenu le New Deal de Roosevelt, qui a permis, entre autres, l'émergence du mouvement syndical. Et elle va en Amérique, dans une usine Schwarzenbach, soutenir les syndicats. Et évidemment, elle se fait mettre à la porte par son frère qui dirige cette usine. Et elle dit à Klaus Mann, elle écrit à Klaus Mann, c'est là qu'elle a venir. Elle a vraiment un contact extraordinaire avec les Noirs américains, avec les déshérités, les gens qui sont vraiment dans la misère la plus épouvantable. Je pense que ce sentiment qu'elle a très profondément, des injustices, ouais, des discriminations, de l'exploitation des métayers, des ouvriers, des filatures dans les États du Sud, par exemple, de la condition des femmes en Afghanistan, ces positions en faveur des plus démunis, des déshérités, des laissés pour compte, c'est quelque chose qui a guidé sa vie de A jusqu'à Z.
Durant les heures que je passais à Scotland, j'ai bu une tasse de café au lait grisâtre dans l'unique magasin que je pus trouver ouvert, et je photographiais les misérables logements ouvriers, boîtes à cigares branlantes étagées sur la colline noire et bordant la rive du fleuve, fenêtres aveugles, carreaux cassés, rafistolés avec du papier journal, femmes misérablement vêtues rinçant leurs lessives dans l'eau glacée de la rivière. Peu à peu, j'entrais en conversation avec les gens, des noirs, des blancs, des enfants, des vieillards, et un nombre considérable d'infirmes. Ils étaient tous assis contre le mur de l'unique drugstore où battaient le pavé en groupe et se chauffaient au soleil de midi. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. « Vous êtes tous sans travail ?» La compagnie a fait faillite. La mine a été trop vite ouverte. mal exploitée, et maintenant elle est fermée. Et de quoi vivez-vous ? Ils répondirent avec humour, de chewing-gum et de la soupe des Quakers. On pensa que ça se voyait au premier coup d'œil. Les Quakers avaient ouvert une soupe populaire à Scotland. On mangeait leur soupe, mais on l'assaisonnait de colère et de mépris. L'Américain n'aime pas qu'on lui fasse la charité. Les hommes en bonne santé ont droit au travail.
Carson McCullers. You'll remember her widely acclaimed play. As a matter of fact, it won many awards, A Member of the Wedding. And Mrs. McCullers was a member of the wedding, your first major dramatic effort.
Yes, yes, it was the first play I'd ever.
But before on. That, you had many novels that were pretty widely accepted.
Yes, I've written a number of novels.
Actually, A Member of the Wedding was written originally in book form, wasn't it?
Yes, it was a book, and I adapted it myself for the theater.
That probably was a job in itself or by itself.
It was lots of fun, as a matter of fact. I'd never worked with people before. And just the mechanics of getting together on production is something fascinating to me.
I should think that would be a bit of a change of pace. You find yourself in writing a novel, you're all...
Elle rencontre Carson McCullers en 40. Donc elle va en 36 et en 37 à faire un voyage avec Bob Hamilton Wright dans le nord-est des États-Unis, puis en 37 dans le sud des États-Unis, et puis elle retourne donc pendant la guerre, grâce à son passeport diplomatique, elle retourne aux États-Unis, elle est à New York, et là elle rencontre Carson McCullers. Malheureusement, toutes les lettres que Carson McCullers lui a écrites qui permettraient de comprendre toute cette relation amoureuse ont été détruites par la mère d'Anne-Marie Schwarzenbach. Et on sait que c'était un amour fulgurant. Carson McCullers lui a d'ailleurs dédicacé un de ses principaux romans. Mais c'est une histoire un peu compliquée parce que c'est le moment où Anne-Marie Schwarzenbach, dans une crise de violence, agresse son amie de l'époque qui était Margot von Hoppel dans un hôtel de luxe à New York, qui était l'hôtel Pierre dans lequel elle vivait. Elle retrouve à New York Erika Mann et Klaus Mann, mais Margot von Hoppel est quand même une membre de la famille von Hoppel qui collabore avec les nazis, qui utilisent des juifs dans leur usine, et elle est très très mal vue de la communauté allemande antifasciste. Et c'est toujours l'ambiguïté d'Anne-Marie Schwarzenbach, ce déchirement qu'elle a entre des questions d'affection personnelle. Elle avait une relation amoureuse avec Margot von Hoppel et les questions politiques.
Carson McCullers, c'était un double. C'est-à-dire que, comme elle avait une mère castratrice, comme elle jouait du piano, volupté. Elles étaient trop semblables. Elles ont même publié leur premier livre à 22 ans, toutes les deux.
Au plan des interrogations existentielles, il y a de grandes affinités entre Carson McCullers et Anne-Marie Schwarzenbach. C'est le même sentiment lancinant de la solitude des individus qui traversent leur œuvre, ces individus qui cherchent désespérément à se rencontrer, à avoir un contact, à trouver l'amour, et qui cherchent plus fondamentalement à savoir comment vivre. Se rencontre d'ailleurs au moment où Carson perce, littéralement, enfin en 1940, elle est repérée, Carson, par son roman Le cœur est un chasseur solitaire, justement, et qui est devenu le livre du mois. C'est son premier roman, elle a 22 ans, et c'est déjà un chef-d'œuvre.
Carson, ma petite chérie, je me suis souvenu du très fort sentiment de bonheur que j'ai ressenti. Si ce livre, reflet dans un œil d'or, venait à être imprimé et m'était dédié, ce serait probablement la seule trace que j'aurais laissée aux USA. Mais même si ce pays représente pour moi une défaite terrible et affreusement douloureuse, je serai heureuse de cette trace solitaire. Savoir qu'un livre comme celui-là sera lu, qu'un talent profond comme le tien, Carlson chéri, existe, sera une compensation pour moi-même et ma défaite. Lettre à Carson McCullers, le 10 avril 1941.
Lorsqu'elle revient en 1940, son voyage qui était absolument dramatique, qui avait fini par son internement dans un hôpital psychiatrique, c'est la police qui l'a fait interner, et son frère devait payer une somme considérable à l'époque pour qu'elle reste internée aux États-Unis dans un hôpital psychiatrique. Cure de désintoxication, la somme s'élevait à 70 000 francs. Et le frère envoyait à son autre frère une lettre en Suisse en disant, en fait, Anne-Marie, elle n'en vaut pas la peine. Et à ce moment-là, elle est renvoyée en Suisse, à condition qu'elle ne remette plus les pieds aux États-Unis. Et Ella Mayer, lorsqu'elle écrit une de ses dernières lettres à Anne-Marie Schwarzenbach, elle lui dit, votre mère, c'est votre pire poison. La mère d'Anne-Marie Schwarzenbach appelle Ella Mayer et lui dit « Je vous décharge de toute responsabilité si vous la laissez là-bas, elle ne vaut pas la peine. » En fait, on trouve dans la lettre du frère, la lettre de la mère, une chose terrifiante, c'est-à-dire une dévalorisation absolue, le fait qu'elle est abandonnée par cette famille qui continue en fait à la soutenir.
C'est vrai que la récurrence, la répétition de ces épisodes amoureux où les gens témoignent de l'étouffement dans lequel ils se trouvent quand ils sont avec elle, parce qu'elle est en permanence dans une grande demande et puis dans une sorte de fuite où il y a une sorte d'incompatibilité entre sa mission qui est l'écriture, qui est vraiment la mission de toute sa vie et qui nécessite évidemment de s'isoler, forcément, et cette recherche de contact. C'est complètement paradoxal, c'est contradictoire et c'est une équation qui n'est jamais résolue, évidemment. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que justement, c'était quelqu'un qui était de plus en plus détruit par la morphine. Elle avait des crises de très grande faiblesse où elle ne pouvait rien faire. Ça n'a pas empêché d'écrire 300 articles en 10 ans. C'est ce qui est absolument phénoménal, parce qu'à côté de ces reportages et articles, il faut dire aussi que ça a été une remarquable photographe. Et ses articles étaient très demandés, parce que justement, elle permet, à travers ses articles qu'elle a écrits aux États-Unis pendant dans l'Amérique de la Grande Dépression, où elle a soutenu le New Deal de Roosevelt, au Proche-Orient, elle a écrit sur tous ces pays qui sont aujourd'hui au devant de notre actualité, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, enfin. Bref, tout c'est en Turquie, bien sûr, aussi, dès 1933. Donc, elle a permis aux Suisses de découvrir ces pays à travers tous les articles qu'elle a pu écrire sur ces différents pays et sur la société de l'époque dans ces pays-là.
L'aube va se lever sur la rive du Congo. Vous savez déjà combien l'obscurité recule vite. Comme si quelqu'un se débarrassait de son manteau, descendait d'un pas léger vers le fleuve, ses épaules lisses, luisant d'une sombre lueur, et remplissait sa main, et la portait à sa bouche, et se reposait sur ses talons de la chaleur étouffante de la nuit, et souriait.
Elle va au Congo dans le but de s'engager dans les forces françaises libres, mais là elle est suspectée d'espionnage, parce que, évidemment, c'est quand même très curieux pour les autorités congolaises, enfin les autorités surtout des forces libres, cette femme est la femme donc d'un diplomate français consul, donc à Tétouan, et diplomate inféodé, enfin un diplomate qui dépend du régime du gouvernement de Vichy. Elle-même décide d'aller à la découverte du pays, d'aller au contact des gens, de ces peuples qu'elle ne connaît pas, comme dans tous les continents qu'elle a visités. Après, elle retrouve un certain calme, d'ailleurs elle retrouve son mari. Les choses semblent s'apaiser. Elle-même, dans ses écrits, elle arrive à réunir tous les éléments qui posaient problème dans une espèce d'union avec le monde.
Et elle dit à ce moment-là, elle écrit à Carson, elle écrit à Ella Mayer, pour dire que, Enfin, elle a l'impression de toucher la réalité, précisément parce qu'elle est parvenue à cette espèce de détachement. Elle a le sentiment d'un contact trouvé avec la réalité et d'une espèce d'apaisement.
C'est un accident assez bête en définitive. Anne-Marie Schwarzenbach avait hérité un peu d'argent de sa grand-mère. Et elle a décidé d'acheter la maison qu'elle louait à Sils Maria. Donc Sils Maria dans les Grisons, qui est un endroit merveilleux dans lequel elle se ressourçait depuis 10 ou 15 ans. Et la maison qu'elle louait était à vendre. Elle avait décidé d'acheter cette maison. Et le jour de la vente, elle devait se rendre depuis Sils Maria jusqu'à Saint-Moritz, donc ça fait une quinzaine de kilomètres, qui sont des kilomètres à plat le long des lacs. Elle avait commandé une carriole avec des chevaux pour s'y rendre, et au dernier moment, elle croise une de ses amies qui était à vélo, qui avait beaucoup de peine parce qu'elle savait pas très bien à vélo. Et l'amie lui dit, ah bah tiens, tu veux pas aller à Saint-Moritz en vélo? Et puis moi je prends la calèche. Et puis ma chanson m'a dit oui, bien sûr, pas de problème. Elle est montée sur le vélo et puis elle a voulu montrer à son amie qu'elle pouvait aller à vélo même sans tenir le guidon. Elle a lâché le guidon et malheureusement elle a fait une chute assez grave. Et elle était portée à l'hôpital et puis elle est décédée quelques jours plus tard.
Alors il y a un drame qui s'est joué véritablement avec les lettres d'Anne-Marie Schwarzenbach, c'est que celles qu'elle a reçues ont été brûlées par sa mère et sa grand-mère à sa mort. Donc ce sont des correspondances à une voix. On retrouve les lettres d'Anne-Marie dans les fonds des amis. On a retrouvé les lettres d'Erika, en tout cas en partie, d'Erika et de Klausmann. Et René Schwarzenbach a voulu détruire ce qui faisait partie de l'intime. Et, enfin, elle a détruit les lettres de Klausmann, les lettres que Thomas Mann aussi a pu écrire à Anne-Marie. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui ont correspondu avec Anne-Marie. C'était une mine absolument extraordinaire.
Je ne pense pas que ce soit une citation vraiment, c'est vraiment de mémoire, mais c'est pour aimer, il faudrait commencer par le plus simple. Voilà. Aimer un arbre, un nuage. Mais il n'y a pas de simplicité.
Une vie, une œuvre, Anne-Marie Schwarzenbach, L'ange inconsolable. Par Vinciane Meuchler, avec Véronique Auboui, Dominique Grant, Daniel Girardin, Anne Bissang et Nicole Lebris. Coordination Irène Omelianenko, Claire Poinsignon. Prise de son Olivier Dupré, Jean-Michel Bernot, Valérie Lavalard, Jacques Hubert. Mixage Claire Levasseur. Réalisation Ghislaine David.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 avril 2018. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.